Et donc dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 5, voici 8 promesses de bonheur que nous propose Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vie juste, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et puis dans l'Évangile selon Jean, à l'autre bout finalement du ministère de Jésus, les dernières paroles finalement qu'il prononce, quand quelques heures avant d'être exécuté, il résume l'essentiel pour ses disciples. Voici ce qu'il nous propose. À partir du verset 12, au chapitre 15. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus seulement serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Alors ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors ce que je vous dis, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 36, donc toujours dans notre psautier français, « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux ». Donc les trois strophes de ce psaume 36. Nous prions Dieu en suivant du cœur ces mots de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller? À qui m'adresser? Ô mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Dans le plus célèbre des psaumes, le psaume 23, que nous connaissons bien, David témoigne que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Ça paraît impossible, la grâce encore, d'accord, mais le bonheur absolument tous les jours, chaque jour. Mais en fait, David ne nous promet pas le bonheur, il ne nous dit pas « faites ceci et vous serez heureux ». Il ne nous dit pas non plus « c'est dans la vie future que vous connaîtrez le bonheur ». Non, David témoigne de son bonheur, d'un bonheur présent comme de quelque chose de tout simple qui l'accompagne dans les bons jours, mais aussi dans les jours terriblement tristes et difficiles. Et David en a connu des jours sombres. Il les évoque à travers cette image de la vallée de l'ombre de la mort, de ces jours peut-être où son fils meurt par sa faute, le jour où il est poursuivi de jalousie par son roi, et où il est pris entre double fidélité, de fuir cet homme et en même temps de ne pas lui faire du mal. Et puis ensuite, les jours terribles où David reconnaît finalement ses crimes, ses fautes. Mais quel est donc ce bonheur dont nous parle David? Eh bien, ce n'est pas un bonheur que l'on a ou que l'on possède, que l'on tient dans ses mains, mais c'est un bonheur qui nous accompagne, nous dit-il. C'est ce même bonheur dont parle Jésus finalement dans les Béatitudes, un bonheur plus fort que les pleurs, nous dit Jésus, que le dénuement, que les persécutions, que la haine, que le mépris. Et lui aussi, il s'en connaît, il y connaît quelque chose à la vie et à ses contrastes. Ce bonheur, c'est une façon d'être qui permet de vivre comme une grâce, quel qu'en soit le jour, dans l'abondance, quand la vie est un peu comme les vers paradis, les verts pâturages, les ruisseaux paisibles du paradis, nous dit David. Mais aussi quand la vie est comme une vallée d'ombre et de mort, de toutes sortes de larmes. Alors bien entendu, il n'est pas question une seconde que le bonheur soit total, à 100%, sans arrêt, mais il s'agit d'un bonheur qui existe quand même réellement, comme quelque chose d'un peu mystérieux qui est là, dans notre vie. Parfois tout contre nous, parfois un peu plus enfoui, un peu plus caché, mais quand même réellement chaque jour, comme une personne vivante qui est auprès de nous et qui ne nous abandonne pas, qui nous accompagne, nous dit David. Alors c'est ce que proposent d'abord les textes bibliques qui, quand ils parlent du bonheur, les psaumes 1er, les psaumes 23, les béatitudes de Jésus, c'est de chercher à faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de confession de bonheur, finalement. Comme nous faisons aussi, et c'est bien, je pense, une confession de foi et puis une confession des péchés, peut-être ces trois points de vue sur notre existence, sur notre être, sur le monde, sur la vie, ces trois points de vue se complètent bien et font une excellente base à notre prière quotidienne. Il y a dans cette triple confession de bonheur, de foi et de péché, une démarche saine et féconde. Chaque soir, chaque dimanche, ou au rythme que l'on veut, mais régulièrement, comme une hygiène de vie, il est bon de chercher à faire une amorce de confession de bonheur. Comme le corps et l'intelligence peuvent être musclés grâce à un exercice régulier, ni trop négligent, ni trop violent, la capacité à discerner les traces de ce bonheur qui nous accompagne, paraît-il, et puis à le vivre, à le savourer, à le ruminer, eh bien cela se travaille en fait. C'est la première des choses, à mon avis, pour apprendre à vivre. Mais encore, pour faire quelque chose de ce bonheur quand nous avons pu le discerner finalement dans notre être, dans notre vie. La réflexion, mais encore la prière, est un bon lieu, je pense, pour faire ce travail. Car Dieu est spécialiste pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos cœurs, et cela aide pour tendre la main à ce bonheur et à cette grâce qui nous accompagne effectivement, même si nous ne nous en rendions pas bien compte à première vue. Et souvent, prenant conscience de cette part de bonheur qui nous accompagne, nous reconnaissons que ce bonheur est une grâce, c'est-à-dire un don incroyable, surprenant, qui n'aurait pas lieu d'être finalement. C'est une grâce d'être capable d'être un peu heureux lorsque les circonstances ne suffisent absolument pas à l'expliquer, bien au contraire. C'est ce qui amène David à rendre grâce à Dieu pour son bonheur, et c'est là aussi quelque chose de fondamental pour nous peut-être. Dire que le bonheur est une grâce signifie que nous avons droit au bonheur, même si nous n'avons absolument rien fait pour le mériter. Nous n'avons rien fait pour le mériter, et nous y avons droit quand même, en fait, au bonheur et à la joie. Et reconnaître que le bonheur est une grâce rend alors possible d'avoir de la gratitude, en fait. Gratitude envers ce qu'est telle personne qui nous a accompagnés et qui, par un geste, une parole, une présence, a été ou qui est encore source de bonheur pour nous. C'est l'occasion de se réjouir et de goûter peut-être la vie autrement et de la goûter peut-être même vraiment. Notre être fait alors comme une caisse de résonance à cette grâce d'un petit bonheur qui nous a touchés et que peut-être nous aurions simplement laissé passer, échapper. Alors que, en faisant ainsi caisse de résonance, ce sont des ondes de gratitude qui prennent alors leur élan dans le monde à travers nous, participant à l'embellir un peu plus encore, à être source de joie du monde, finalement. Notre confession du bonheur est alors un moteur pour avancer et pour faire avancer plus librement, donnant du goût à la vie, laissant place à la grâce, donnant du goût à notre vie, nous rendant plus calmes, plus confiants face à la vie et puis face à ces aléas, au chaos, aux turbulences de l'existence. Mais qu'est-ce que le bonheur de l'humain, finalement? Quel est ce bonheur pour que nous sachions le reconnaître quand il nous croise, quand il nous accompagne? Alors chacun peut avoir sa définition. Il y a aussi des modes, des ambiances. À telle ou telle époque, on est influencé, finalement, par une certaine conception du bonheur. Et donc, c'est peut-être important de rechercher, justement, quel est pour nous, quel pourrait être pour nous, le bonheur. La Bible nous propose de réfléchir sur cette question principalement à travers des récits, des prières et puis des réflexions très diverses. Mais une définition de ce qu'est le bonheur se trouve déjà dans le sens même des mots utilisés dans la Bible hébraïque pour parler du bonheur. En hébreu, deux mots sont utilisés pour dire le bonheur. D'abord, le premier mot, c'est « ashrei » qui signifie être en marche en fait, qui a donc deux sens, être heureux et être en marche. Et le second mot est tout simplement tov, qui signifie bon. Ça paraît tout simple, mais là aussi c'est essentiel. Ah, donc le premier mot du livre des psaumes, c'est Ashrei, le bonheur qui veut signifier être en marche. Et c'est sans doute par ce mot que s'ouvre aussi le premier grand enseignement de Jésus, bon, que nous avons donc en grec dans les évangiles, mais qu'il a sans doute prononcé en araméen ou en hébreu, sans doute en hébreu, en écho finalement à ce psaume premier. Et donc c'est sans doute le mot « Ashrei » aussi, qui a commencé cette première prédication de Jésus, commençant sur le bonheur, sur le fait d'être heureux. Alors effectivement, ce verbe « asher » dit à la fois le fait d'être heureux et d'être en marche et d'avancer. Et cela permet de comprendre finalement comment le bonheur peut être vécu dans l'abondance comme dans les situations difficiles. Quand tout va bien et que l'on en profite pour avancer, c'est ce que propose le début du psaume 23. Et c'est une bonne idée, je pense, parce que quand tout va bien, pour une entreprise par exemple, c'est là le bon moment pour investir dans la recherche et le développement. Et donc c'est de même, quand nous sommes heureux, c'est une bonne idée d'investir dans une conversion de notre être, dans un approfondissement de notre être. Ce n'est pas complètement évident, parce que quand nous sommes heureux, nous avons envie de nous arrêter là et de camper sur cet instant de bonheur. Mais de la même façon, quand on a des ennuis et qu'on arrive à avancer un petit peu, quand les larmes sont un peu consolées, quand la paix progresse, quand le deuil devient plus serein, quand on peut se réconcilier dans la guerre, quand la maladie a perdu du terrain, qu'elle n'a pas été victorieuse ce coup-là, eh bien le bonheur est là. Dans cette dynamique qui consiste à avancer, à progresser, à surmonter, mais encore quand on a pu aider quelqu'un à avancer aussi. Alors oui, c'est bon et ça fait du bien. Cette conception du bonheur comme une dynamique se retrouve souvent dans la Bible. Par exemple, dans la figure d'Abraham, qui est mis en route par l'appel et la bénédiction de Dieu et qui devient aussi une bénédiction pour tous les peuples à travers cette mise en route, cette démarche. Nous retrouvons cette conception de la vie humaine et du bonheur quand l'Évangile appelle le Christ le chemin, la vérité et la vie. Voilà, cette vérité de l'Évangile, c'est une dynamique de cheminement et de vie. La vie véritable, la vie heureuse, c'est ce cheminement qu'est le Christ, cette mise en mouvement par l'amour et pour l'amour. David reconnaît en Dieu la source du mouvement, une force qui l'aide à avancer dans les jours d'abondance et dans les jours terribles. Et chaque fois, c'est un miracle. David rend aussi grâce à Dieu de l'aider à avancer dans les vallées d'ombre et de mort. Oui, Dieu est source de la vie, du mouvement et de l'être, comme le dit l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi dans les textes de la Bible qui parlent de la présence active de Dieu dans notre vie, tous ces textes peuvent être lus finalement comme parlant du bonheur et de la joie que Dieu veut pour chacun de nous. Et donc par exemple, quand Jésus dit « Vous cherchez le royaume de Dieu ?» Il n'est pas plus ici qu'ailleurs, nous dit Jésus, mais voilà en vérité le royaume de Dieu, c'est-à-dire en fait la joie et le bonheur. Ce royaume de Dieu est au-dedans de vous et il est au milieu de vous, à l'intérieur de vous-même et dans les relations interpersonnelles. C'est ainsi que le bonheur nous accompagne. Il y a du bonheur à avancer, comme l'indique le mot « Ashrei ». Mais ce n'est pas le seul mot pour dire le bonheur dans la Bible hébraïque. Il y en a un autre, et c'est heureux, c'est le cas de le dire. Sinon, notre bonheur risquerait de tourner à une course effrénée, finalement. Course effrénée que connaît aussi notre monde, peut-être. Alors ce second mot pour dire le bonheur, c'est tout simplement « tov », ce qui est bon. Alors il y a du bonheur dans le fait d'avancer, c'est vrai, de faire avancer, de créer, de se convertir. Mais il existe un autre bonheur, celui du repos, pas au sens de la sieste, bien que oui aussi, quand même. Mais au sens du Shabbat biblique, ce jour où l'on s'arrête pour vivre et pour être heureux, pour goûter à ce bonheur, sans rien produire, ni même se déplacer. Dieu, nous dit la Genèse, a choisi de se reposer le septième jour après avoir créé pendant 6 jours. À la fin de chacune de ces 6 journées où une étape a été franchie, consacrée à faire avancer les choses de la part de Dieu, bien le récit nous dit que Dieu regarde et se réjouit de ce qui est bon. Oui, il y a là de la joie, simplement, à contempler. Et puis ensuite, à vouloir avancer d'un pas de plus. Lui aussi fait alors une confession de bonheur, mais à l'aube du septième jour, Dieu s'arrête complètement et il dit « c'est très bon ». Il y a ainsi le bonheur d'avancer, le bonheur de faire avancer, et puis il y a aussi le bonheur d'être là et de s'arrêter pour voir, pour contempler ce qui est bon et pour le bénir. Il n'y a pas que du bon à voir, évidemment, dans la réalité, mais le bon existe. Et le propre de cet amour qu'est Dieu, de cette grâce, c'est de se réjouir de cette bonne part. Alors ça peut être ensuite pour essayer d'avancer, comme nous le propose le psaume 1, avec sa dynamique de purification, d'irrigation, de croissance, de fructification, mais ça peut être aussi simplement la contemplation qui s'arrête et qui se réjouit de tout le bon qui existe. Dans le psaume 139, David a cette louange que je trouve utile à méditer. « Je te célèbre, Éternel, pour la merveille que je suis. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Alors sur la carte de visite, on pourrait marquer « La merveille que je suis. » Voilà. Ça poserait son homme, sa femme. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai bonheur à avancer. Il y a aussi un vrai bonheur dans le seul fait d'exister, de reconnaître la qualité extraordinaire de ce que nous sommes, qui nous est donné par grâce, indépendamment de tout mérite. Nous sommes un être fragile, imparfait, arrogant, pécheur et tout ce qu'on veut, mais nous sommes aussi un être merveilleux. Et dans cette contemplation-là, il y a un bonheur et une joie à vivre. La personne qui a le plus de chance dans la vie, comme la personne la plus pauvre, la personne la plus handicapée, tous peuvent ainsi goûter ce bonheur-là. Et c'est peut-être la grâce de Dieu qui nous l'apprend, ce regard sur nous fondamental, qui se réjouit sur la merveille que nous sommes, et celle de tous ces êtres qui nous entourent. Oui, quelle merveille, eux aussi. Alors ce bonheur de la contemplation, c'est aussi, comme dans le psaume premier, un temps où on se laisse créer par Dieu comme un arbre enraciné près d'un cours d'eau qui grandit, et puis qui, dans son temps, à sa saison personnelle, pourra produire son fruit particulier. Et puis c'est aussi une occasion de se laisser purifier par Dieu, à l'image du vent qui fait s'envoler la paille et qui garde le bon grain. Voilà donc le bonheur selon la Bible, c'est d'avancer et de se réjouir de ce qui est bon. Et si nous existons aujourd'hui, c'est bien que nous avons reçu cette double grâce, cette double qualité de bonheur. Alors cela me rappelle finalement ce double bonheur dans la Bible hébraïque. Ce que m'a dit un jour une personne, chaque matin, m'a dit cette personne, « Je remercie d'abord Dieu pour ce nouveau jour de résurrection, puis je cherche comment faire dans ma journée, dans cette journée qui s'ouvre, pour faire peut-être quelque chose d'utile. Et puis s'il ne me vient pas l'idée de trouver quelque chose d'utile, mais je ferai au moins quelque chose d'agréable. » Eh bien, on retrouve ici à la base la louange à Dieu et ces deux faces du bonheur qui sont d'avancer, de faire avancer en faisant quelque chose d'utile, et puis de se réjouir de ce cadeau qu'est la vie en soi, mais aussi des petites et des grandes bénédictions que peut nous donner la vie. Il y a là, dans cette simple démarche, une bonne hygiène de vie, une façon, eh bien, d'apprendre à entrer dans cette joie. Alors le psaume 23, il intègre dans un jeu de mots que seul l'hébreu permet ce double bonheur dans la résolution tranquille que David exprime en conclusion. « Je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors les traductions en français, elles hésitent, faut-il traduire « je reviendrai » D'autres traductions disent « je demeurerai » ou « j'habiterai ». Alors ça n'a rien à voir. Pourquoi ces deux traductions si différentes? Eh bien, c'est que quand il est décliné, il est impossible de savoir si le verbe qui est ici présent, c'est le verbe « shuv », « revenir », « se convertir », ou si c'est le verbe « yashav », demeurer, habiter. Alors David n'est pas idiot, il sait bien qu'il y a ambiguïté dans cette prière, c'est donc en fait qu'il réunit les deux. Oui, le bonheur se trouve dans les deux finalement, comme les deux jambes, comme une respiration, dans la progression et dans la contemplation, et les deux en fait sont une grâce, un don au sens d'un cadeau qui nous est fait, et un don au sens d'un talent, d'une capacité que nous avons. Ce bonheur de voir avancer et de faire avancer peut-être les choses dans notre vie, le bonheur de se réjouir de ce qui est bon, Jésus nous propose de le conjuguer en fait au pluriel, pour soi aussi, mais peut-être pour d'autres et pour les autres. Il y a plus de bonheur, nous dit Jésus-Christ, à donner qu'à recevoir. Alors on rigole en disant que c'est le proverbe du boxeur qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner des coups qu'à recevoir, mais en fait Jésus parle du don effectivement et des cadeaux qu'on peut recevoir, et je pense que c'est tout à fait exact, et nous le savons bien. C'est du sens pratique finalement. L'évangile selon Jean, il culmine sur cette idée-là, dans ce que je vous ai lu, dans cet enseignement où Jésus résume l'essentiel pour ses disciples, où il évoque la joie à plusieurs reprises, et où il parle même de joie parfaite, de joie complète. Alors cela commence par un passage que je ne vous ai pas lu, qui est au chapitre 13, qui est bien connu, et pour que les disciples puissent peut-être mieux percuter finalement que ce n'est pas de la simple théologie abstraite, Jésus pose un geste tout simple. Il lave les pieds de ses disciples, ce qui ne devait pas être du luxe, à mon avis. Il explique ce geste comme un symbole du service que nous recevons de Dieu, des autres, et que nous pouvons rendre aux autres. Et Jésus leur dit, « Vous êtes heureux si vous savez cela et si vous le mettez en pratique. » Si vous savez le service qui vous a précédé, le service qui est encore présent pour vous et que vous le mettez en pratique comme un service. Et un peu plus loin, nous l'avons entendu, Jésus parle encore du bonheur, mais en allant même jusqu'à la joie et la joie complète. Et c'est une forme du bonheur encore plus profonde, plus éclatante, plus rayonnante, la joie. Et je terminerai là-dessus, sur ces paroles de Jésus, qui nous invite à nous laisser construire finalement, créer, par cette joie que Dieu nous donne. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.